Deuxième essai. On le ballon vers Allen, il le confie aussitôt à son porteur. Cook montre une très belle rapidité, de belles feintes. Et c'est encore un premier jeu, même plus, alors que Cook atteint la zone de but. James Cook, avec une course spectaculaire pour le toucher. Buffalo augmente son avance en début de troisième quart. Une course de 41 verges.
À tous les ans, il y a un ou deux matchs dans les nationales de football qui a entre 80 puis 90 points au total, qui nous fait capoter, puis on regarde ce match-là, puis on dit « Wow, ça c'est tout un match, ça aurait dû être le match du Super Bowl, ça. » Tu sais?
Il va peut-être avoir une belle reprise.
Il va peut-être avoir une belle reprise. On parle avec Renaud Bourbonnais d'RDS. Les Bills qui battent les Lions 48-42. Quel match! Bonjour Renaud!
Hey Tony, hey Alex, je veux vous dire une chose. Si un jour les Bills de Buffalo et les Lions de Détroit se rencontrent au Super Bowl, les dieux du football vont paniquer un petit peu, je pense, parce que ces deux équipes-là, selon la loi de l'univers du football, sont supposés ne jamais gagner le Super Bowl. Les Lions sont jamais même supposés y participer.
Ouais, ouais. Mais tu sais, d'habitude, quand tu marques plus que 40 points, là, tu gagnes tes matchs. La semaine passée, ils l'ont pas gagné. Non, mais cette semaine, ils l'ont fait. Mais écoute, les performances qu'il livre Josh Allen. Wow, on savait tous qu'il était un très, très bon carrière. Mais aujourd'hui, 16 décembre, corrige-moi si j'ai tort, là, c'est l'MVP, là.
Oui, pour moi, oui. Pour moi, c'est le choix à prendre comme MVP dans la NFL en ce moment. Écoute, Josh Allen, tu l'as dit, ça fait plusieurs années qu'on sait qu'il est bon. On sait qu'est-ce qu'il est capable de faire quand il a le ballon dans les mains. On sait qu'il est capable, que c'est peut-être le carrière avec le meilleur bras de la ligue. Puis qu'en plus, il est capable de courir, puis de courir avec puissance, qu'à peu près personne d'autre est capable de faire dans la NFL au poste de corps arrière. Ceci étant dit, ce qui est différent des autres saisons, c'est que les autres saisons, c'était aussi une machine à revirement. Surtout quand t'arrivais dans le red zone, dans la zone payante, Josh Allen, il échappait des ballons, il lançait des mauvaises interceptions. Puis cette année, mis à part un petit moment là où pendant 4 matchs, ça a été un peu plus difficile, mais où il gagnait quand même, règle générale, Josh Allen protège le ballon cette saison. Donc, c'est un véritable cas de Superman. Avant le match, c'est Clark Kent. Puis avant de mettre son uniforme, il rentre dans la cabine de téléphone puis il ressort en Superman. Il a encore connu un match fantastique cette semaine. Puis quand tu regardes Jared Goff de l'autre côté, ben les Lions, ils ont quand même marqué 40 points. Hein. Ça fait quand même 2 semaines de suite que les Bills accordent 40 points. Mais Jared Goff, cette saison, imagine-toi, il a un match de 5 interceptions qu'il a gagné. Et là, maintenant, il a un match de 5 passes de toucher. Il a perdu. Donc, c'est assez spécial comme saison pour Détroit. Par contre, ce qui m'inquiète pour eux, ce qui m'inquiète pour les Lions, c'est que là, à chaque semaine, ils perdent au moins un joueur défensif. On sait évidemment Aiden Hutchinson qui s'est blessé un peu plus tôt cette saison, qui reviendra pas. Ça a été une lourde perte. Mais tu sais, je pense à Alex Anzalone, par exemple, qu'on a perdu au passage aussi. Il y a encore des joueurs qui sont tombés hier. On va voir si à long terme, c'est des problèmes aussi. Mais ça, c'est un problème pour moi à Détroit, parce qu'autant est-ce qu'on peut dire qu'ils ont une bonne saison, peut-être la meilleure de leur histoire, et que l'attaque marche à plein régime, si la défense n'est pas capable d'arrêter qui que ce soit, ben, ça va nous donner des matchs comme celui-là, puis tu ne pourras pas en gagner 5 ou 4 en fait en éliminatoire.
Renaud, moi, il y a deux points que je veux amener dans cette discussion-là. Premièrement, tu le sais, je découvre de plus en plus le football de la NFL. C'était plus ou moins mon sport avant, puis de plus en plus, je l'apprends, puis je l'apprécie énormément. Puis de voir deux équipes comme ça qui, comme tu le disais tantôt, vont peut-être secouer les dieux du football un peu si ces deux équipes se ramassent au Super Bowl. Moi, je trouve ça excitant, puis je trouve ça le fun. Puis je découvre une NFL qui... J'ai peut-être une vision externe, mais je trouve ça cool de voir deux équipes comme ça qui, dans l'opinion populaire, ne sont pas nécessairement non plus les populaires pour se rendre là. Fin de la parenthèse, tu parlais de Josh Allen un peu comme un Superman. Mais ce que Jared Goff arrive à faire cette année est aussi exceptionnel avec les Lions, justement considérant que la défensive est un peu compliquée avec les blessés et tout ça. Ouais. Pourquoi Josh Allen au-delà de Jared Goff?
Écoute, Jared Goff a vraiment une attaque à tout casser autour de lui. Littéralement, son groupe de receveurs est un des meilleurs de toute la ligue. Il a le meilleur duo de porteurs de ballon de toute la ligue et il a la meilleure ligne à l'attaque de toute la ligue. Ça lui enlève rien, au contraire. Ouais. Il est vraiment bon pour faire exécuter cette attaque-là. Puis tu le vois que Jared Goff, c'est un bon distributeur de ballon, c'est un gars qui garde son calme et tout. Sauf que pour moi, c'est pas un gars qui met le poids de l'équipe sur ses épaules. Tu regardes un Josh Allen, bon, maintenant, on a appris à découvrir certains joueurs autour de lui dans l'équipe. Mais en regardant en début de saison, puis moi le premier, j'étais là à me dire, je sais pas comment cette équipe-là va se rendre en éliminatoire parce qu'elle a perdu tellement de morceaux, puis elle a pas de morceaux excitants autour de Josh Allen. Oui, il y a des gars qui sont capables de faire des jeux, puis on en a découvert cette saison, mais c'est Allen qui est la pièce angulaire de cette attaque-là. Je te donne un autre exemple. Si j'enlève Jared Goff de l'attaque des Lions, puis que je le remplace par, je donne un exemple vraiment anodin, mais Geno Smith des Seahawks de Seattle.
Ouais.
Je pense que l'attaque des Lions va quand même trouver le moyen de fonctionner. On prend une couple de semaines pour s'habituer, mais ça va aller. Tu remplaces Josh Allen par Geno Smith à Buffalo. Je pense pas que l'équipe participe aux éliminatoires.
En parlant de Seattle, est-ce qu'ils ont perdu Geno Smith?
Ouais, hier, il s'est blessé, évidemment. Puis là, c'était Sam Howell hein, qui est rentré dans la mêlée. Et ça fait plusieurs semaines, Tony, que beaucoup de gens réclament que Sam Howell joue à Seattle parce que Geno Smith est un peu mal aimé, si tu veux, là-bas. Pourquoi? Parce que c'est pas un carrière élite, mais c'est quand même un bon carrière. On a l'impression que c'est le gars qui nous garde dans le milieu de peloton, qui peut pas gagner les gros matchs, Geno Smith. Ben, écoute, ceux qui demandaient Sam Howell l'ont vu hier compléter 36% de ses passes. Je sais qu'il pratique pas avec l'équipe des partants, qu'il est rentré un petit peu out of nowhere, qui pratique avec des réservistes toute l'année, puis que tu lui demandes d'une seconde à l'autre d'entrer dans le match puis de faire des jeux contre une bonne défense, celle des Packers. Ceci étant dit, on l'a vu, ce sera pas un super héros non plus qui va venir sauver tout le monde, Sam Howell. Donc ça, c'est dommage pour Seattle, surtout qu'ils ont échappé le match, puis pour eux, ça passe absolument par un championnat de division si on veut participer aux éliminatoires. Je pense que là, tranquillement, mais pas vite, à l'usure, on est en train de voir que c'est les Rams qui vont se démarquer dans cette division-là, pas les Seahawks.
Les Chiefs, là, ils craignent toujours, là. Mais c'était loin d'être convaincant, par exemple, face aux Browns.
Ouais, ben en fait, ce qui est surtout inquiétant, en plus, dans tout ça, c'est qu'à la fin du match, il y a quelqu'un qui est tombé sur le pied à Patrick Mahomes, puis on a dû rentrer Carson Wentz pour terminer la rencontre. Que l'attaque des Chiefs soit pas ultra productive, c'est pas une surprise. C'est une des, je pense, 5 équipes dans la NFL qui a pas encore marqué 30 points dans un match cette saison. C'est la seule équipe qui a une bonne fiche. Par contre, dans cette liste-là, les deux New York, les Raiders et compagnie, ça vaut pas grand-chose. Mais Patrick Mahomes qui est blessé, puis là, on l'a vu avec quitter sur la voiturette à la fin du match quand il était dans le vestiaire. Et là, la question, c'est savoir quand est-ce qu'il va pouvoir revenir au jeu. Parce que les Chiefs, bon, sont à 13-1. La seule équipe qui les menace pour le premier rang dans l'Américaine et pour la semaine de congé, ce sont les Bills. Puis les Chiefs ont 2 matchs d'avance sur les Bills présentement. Donc la question est de savoir, est-ce qu'ils vont vouloir reposer Patrick Mahomes? S'il y avait un match facile devant eux, tu dirais, ben c'est facile. Le prochain match, tu t'assois Patrick Mahomes, tu te dis Carson Wentz va aller le gagner pour nous quand même. Sauf que d'ici la fin de l'année, les matchs des Chiefs, c'est contre Houston, contre Pittsburgh à Pittsburgh et contre Denver à Denver. Donc, il n'y a pas de match facile pour Kansas City. Ma décision personnelle, si j'étais les Chiefs, au risque de perdre le premier rang dans l'Américaine, tu peux pas perdre Patrick Mahomes. Si tu perds Patrick Mahomes, je te l'annonce, même si tu as la semaine de congé, c'est terminé pour les Chiefs. La saison va s'en aller nulle part. Donc, moi, je pense qu'il faut les reposer. Ceci étant dit, le fait qu'ils gagnent des matchs serrés, pour moi, à ce point-ci de la saison, ça me dérange pas. On l'a vu, c'est leur identité.
Ouais.
C'est pas une équipe qui marque 30 points par match. Donc, force est d'admettre que ben, tu vas pas gagner des matchs par un nombre incalculable de possessions si toi-même, t'es pas capable de marquer 30 points.
T'as posé une question sur Cody Fajardo dans quelques minutes, mais avant ça, évidemment, il y a le match de lundi et... Il y a aussi le match de la bataille de la Pennsylvanie en fin de semaine, les Steelers contre les Eagles. Puis à la fin, le point tournant, là, le tout a changé, évidemment, avec le mauvais échange entre Russell Wilson puis Harris.
Ouais, vraiment, parce que les Steelers étaient en train de reprendre du rythme à ce moment-là. Ils n'ont pas été capables de courir du match. Les Eagles ont vraiment, vraiment fait du bon travail contre l'attaque au sol. Pour les Steelers, ça a été 3,3 verges par course. 56 au total. Il n'y a pas eu de toucher au sol pour Pittsburgh. Donc, du côté de Philadelphie, on l'a remarqué, c'est quoi la clé pour arrêter les Steelers de Pittsburgh? S'ils sont pas capables de courir avec le ballon, puis de commencer à faire des play action pour étirer le terrain avec la passe, ben l'attaque elle risque de pas faire grand-chose du match. Et ajoute à ça le fait que les Steelers, ils étaient privés de leur meilleur receveur, George Pickens, qui est un des bons receveurs de la NFL pour étirer le terrain, justement. Donc, il n'y a pas vraiment d'option premium, si tu veux, dans le groupe de receveurs des Steelers présentement, si j'inclus et les receveurs et les tight ends et les rapprochés. Calvin Austin, Pat Freiermuth, Mike Williams qui sont allés chercher à la date limite. Ben Skowronek, l'ancien des Rams, qu'on a quasiment oublié qui était là. Donc, tu sais, il n'y a pas de vrai playmaker dans ce groupe de receveurs-là. Donc, ça nous dit deux choses. De un, George Pickens va être essentiel lorsqu'il va revenir au jeu. Il va falloir qu'il reste en santé. Mais aussi que c'est peut-être un endroit où il va falloir travailler durant la saison morte chez les Steelers de Pittsburgh d'ajouter un petit peu de talent au poste de receveur.
On a déjà eu des meilleurs matchs de lundi soir, hein?
Que ceux de ce soir.
Vikings-Bears?
Ouais. Oui, on a aussi Atlanta-Las Vegas ce soir pour ceux qui sont des vrais junkies, parce que sinon, ce match-là va être assez ennuyeux.
Ouais.
Ben, écoute, les Bears ont commencé à 4-2, ils sont maintenant à 4-9, c'est 7 défaites de suite. Puis là, quand ils ont congédié Matt Eberflus, leur entraîneur, il y a 2 semaines, on se disait pas qu'ils allaient du jour au lendemain devenir bons, mais qu'ils allaient peut-être avoir une énergie du nouveau coach, tu sais, qu'on voit dans tous les sports. Puis on les a vus contre les 49ers la semaine passée, ils se sont fait massacrer. Puis en première demi, je pense qu'ils avaient 2 verges d'attaque. Donc, il y a rien de bon qui se passe présentement à Chicago. Il est juste temps que la saison finisse pour les Bears.
Cody Fajardo, on en a parlé il y a quelques semaines de ça. Évidemment, les Alouettes, on sait, ils ont tranché. C'est Davis Alexander qui va être leur carrière pour le présent et pour le futur. Mais on attend la réponse de Cody Fajardo. Il y en a plusieurs qui pensent qu'il va quitter. Il y en a plusieurs qui pensent qu'il va... Il y en a d'autres qui pensent qu'il va rester à rabais. Évidemment, il va falloir prendre une décision bientôt dans son cas, ou lui, il va falloir prendre bientôt dans son cas. Mais je me posais la question en fin de semaine. Je disais, s'il reste et Alexander perd 2 matchs et Fajardo rentre puis gagne le match, quand même, excellent, c'est bon pour les Alouettes, là, tu t'en vas à ton deuxième, ton deuxième gagne. Mais des fois, c'est mieux d'éviter les controverses. Parce que ça se peut qu'il y ait une controverse, au moins que, tu sais, il va y avoir une discussion à un moment donné, si jamais il retourne, puis Jason Moss, il est là, puis Danny Machocci, il est là, puis Cody Fajardo est là, puis Davis Alexander est là, puis on dit à Cody, et Cody, écoute bien moi bien, on t'aime bien, on t'apprécie, on apprécie tout ce que tu as fait pour nous, mais on a dit que Davis va être notre numéro 1, ça va pas changer, là. S'il joue 2 mauvais matchs, tu rentres, tu gagnes, on va être content pour toi, content pour l'équipe, mais viens pas dans notre bureau pour nous dire que tu vas être le numéro 1, là. C'est pas le cas. Comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que, à la fin, c'est-tu mieux qu'il parte?
Ben, moi, je pense que la bonne décision, ce serait qu'il parte. Puis c'est rien contre le gars, vraiment. Rien contre, pas parce que je pense qu'il va avoir une mauvaise attitude ou quoi que ce soit. C'est les circonstances qui font ça. Ce dont tu viens de parler, la fameuse controverse, ben, c'est la controverse dont on parlait tout l'automne chez les Alouettes. Ça a été une distraction. Bien qu'on dise que non, ça a assurément été une distraction autour de l'équipe à l'automne. La décision de continuer constamment avec Cody Fajardo, même s'il y avait des performances plus difficiles. Puis écoute, Tony, le 15 janvier, les Alouettes lui doivent un bonus de 200 000 $. Un bonus, pas son salaire, un bonus. Je te le dis, il n'y a plus de poste de partant disponible ou pas de poste de partant assuré disponible dans la Ligue. Tout ce qui va rester, c'est par exemple à Edmonton, une place de « ben viens te battre au camp d'entraînement peut-être pour ta place de partant ». Ça, c'est le maximum qu'on peut offrir en termes de qualité de jeu à Cody Fajardo sur le marché dans toute la Ligue canadienne de football. Un carrière que tu signes pour dire « viens te battre pour une place », tu lui donnes pas un salaire de 200 000 $. Donc, il n'y a pas d'équipe qui va transiger, payer le 200 000, puis payer le salaire en plus après. Donc, selon moi, ça va passer par libérer Cody Fajardo ou, s'il est échangé, parce qu'il aura restructuré son contrat. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on ouvre la porte à une controverse plus qu'autre chose en gardant Cody Fajardo. Je pense qu'il faut assumer à 100% que Davis Alexander est le partant pour le meilleur et pour le pire. Faut assumer qu'il y a une marge de risque dans ce qu'on est en train de faire chez les Alouettes. Mais si on veut aller de l'avant, si un jour on veut se sortir de la relation avec Cody Fajardo comme partant, ben il faut couper les ponts d'un coup sec, sinon, tu le sais, il y a des chances que tu retournes avec ton ex.
Oui, je comprends ça. Il y a aussi toujours le risque, par contre, que si tu y vas avec un puis lui se blesse, tu risques de rater les séries parce que si Cody Fajardo décide de partir, tu vas aller chercher peut-être un deuxième qui peut-être pourrait te gagner 2-3 matchs.
Mais écoute, dans la Ligue l'an passé, 8 des 9 équipes partant a manqué plusieurs matchs de la saison dernière. Donc, tu sais, c'est des choses qui arrivent dans la Ligue canadienne. Et ceci étant dit, une fois que la saison est commencée, si au premier match, Davis Alexander se déboîte le genou, puis Cody Fajardo est sur le marché des joueurs autonomes, parce que lui, c'est peut-être ça, sa stratégie aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui le font là dans les Canadiens et au football en général, de se dire, ben, parfait, je vais attendre la saison. Après deux semaines, à Calgary, Vernon Adams s'est cassé la cheville, sa saison est terminée, puis il y en a un autre qui s'est déboîté le genou. Il y a des équipes désespérées qui vont sortir le gros argent, et là, peut-être qu'on parle d'un contrat de 200 000 $. Donc, peut-être la patience dans son cas, mais écoute, on est encore tôt dans le processus, on n'est même pas encore arrivé à l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue canadienne de football, donc commençons par voir ce que les Alouettes vont prendre comme décision. Moi, comme je te dis, je pense pas que Cody Fajardo va encore être là. Et on verra pour la suite des choses pour lui.
Toujours intéressant.
Capable de jouer.
Toujours intéressant, Renaud. On se parle bientôt.
Salut, Tony.
Puis si on se parle pas, écoute, lundi... non, lundi, on n'est pas là. Vendredi, c'est la dernière journée. Écoute, si on se parle pas, j'aimerais te souhaiter des joyeuses fêtes, mon chum. Merci.
Ah, ben à toi aussi, mon Tony. Merci beaucoup.
Merci
salut,
beaucoup.
Alex.
Le voilà, Renaud Bourbonnais.
Salut, Renaud.
On va aller à la